RFI. Bonjour, bienvenue à Djamena, c'est Julien Lebotte et je vous emmène aujourd'hui au centre Almouna. Alors Almouna, c'est un centre culturel situé en plein cœur de la ville dans une rue perpendiculaire à l'avenue Charles de Gaulle. Et ici, on peut apprendre le solfège avec Marie-Hélène, on peut monter dans l'auditorium écouter une conférence, on peut apprendre le français, l'arabe ou encore l'anglais et on peut même réunir des amis pour parler littérature, le tout sous le regard bienveillant de sœur Aïda Yazbek qui dirige les lieux. Ici, la parole est libre, la coexistence pacifique, et franchement, à l'ombre des bougainvilliers, on se sent bien. Allez, en attendant la première conférence des rencontres sahéliennes du numérique, je vous propose de retrouver Kamal Koulamala autour d'un café.
Moi, c'est Kamal Koulamala, président d'Impact.
Alors peut-être Kamal, on peut revenir sur ce qui nous réunit ici aujourd'hui. C'est un goût partagé, je pense, pour la littérature. Et donc tu es le président d'Impact, qui est une association qui a vocation justement à encourager les clubs de lecture. Est-ce que tu peux revenir peut-être sur la naissance d'Impact ? Parce qu'au départ, c'était beaucoup plus localisé que ça. C'était d'abord un club de lecture.
En effet, c'était d'abord un club de lecture qu'on a mis en place en partenariat avec Wenag Labs. L'idée est née du fait que je m'étais rendu compte à mon niveau qu'il manquait d'un espace entre des personnes qui aiment la littérature. Bon, il en existait chez les arabophones, on va dire, parce que ici au Tchad, vous savez, le monde francophone et arabophone, il n'est pas complémentaire, il est un peu séparé. C'est comme si c'était deux mondes différents. Comme j'ai vu ces initiatives de leur part, je me suis dit, bon, j'ai commencé à chercher ce genre de club, ce genre d'espace pour francophones. Et à ma grande surprise, j'en ai pas trouvé ne serait-ce qu'un seul. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas en créer un ? Et c'est comme ça qu'est née cette idée. J'ai contacté des personnes avec qui, bon, que je ne connaissais pas réellement, plus virtuellement, des amis que j'avais sur les réseaux sociaux. Et c'est comme ça qu'est née l'idée. J'ai contacté Wenag Labs qui ont accepté d'abriter le club. Et c'est de fil en aiguille comme ça qu'on a eu notre première rencontre. Et le club a pris forme de cette manière.
Et après, il y a eu une étape, donc il y a eu la formalisation en créant une association. Et puis, pour faire vivre cette association, pour donner envie peut-être de donner des rendez-vous, d'échanger, vous vous êtes structuré notamment autour d'un groupe WhatsApp.
Oui. Bon, le groupe WhatsApp, c'est surtout par souci pour rendre les choses viables, on va dire. Parce que, étant donné qu'on était à la première séance, on était environ 30 personnes, il fallait trouver un moyen pour permettre à toutes ces personnes d'avoir le livre en même temps et de pouvoir le lire à la même période. La manière la plus facile a été de faire avec les livres numériques. Les livres numériques nous donnaient une possibilité qui n'existe pas avec les livres physiques, c'est-à-dire celui d'envoyer un seul livre que tous les membres du club pouvaient recevoir en même temps. C'est comme ça que c'était par souci plutôt pratique qu'on s'est tourné vers WhatsApp, c'est-à-dire avoir transmettre un livre, tout le monde l'a en même temps, et comme ça le lire en même temps et venir en parler. Et après, c'est, comme vous le disiez, c'est le club se structure autour de WhatsApp, et c'est comme ça qu'est né je ne sais pas si c'est le bon mot, mais ce phénomène, on va dire.
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on s'est déjà rencontrés, puisque hier, on était ensemble sur la terrasse de Wenag Labs, et il y avait une discussion sur les initiatives autour, notamment, de l'accès aux livres. Et tu disais quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire qu'on dit toujours que les livres physiques sont très compliqués à partager, mais tu disais, mais en fait, il y a beaucoup de littérature accessible en ligne, gratuitement, et sans d'ailleurs même pirater. Donc, avant même de poser la question du droit d'auteur, ce que tu disais, c'est qu'il y a déjà beaucoup, beaucoup de livres qui sont accessibles, par exemple, sur des sites comme...
En effet, ouais, comme le site de la Bibliothèque Nationale de France et bien d'autres qui proposent des livres libres de droit. Moi, j'en connais, j'en utilise et c'est ça qui m'a le plus surpris, moi, au début. Je me suis dit, toutes ces ressources sont là, sont utilisables, sont gratuites et personne n'est, on va dire, au courant, ne sait pas qu'ils sont là. Et je me suis dit, autant faire en sorte que les Tchadiens, parce que avant de parler de toutes ces ressources, il faut savoir qu'ici, il existe très peu de bibliothèques, il existe très peu de librairies. Pour celui qui veut ne serait-ce qu'acheter un livre, moi pour ma part, je connais qu'une seule librairie qui existe, c'est la librairie La Source, où les livres coûtent extrêmement cher. Bon, je les comprends, entre les transports, l'achat du livre, ils peuvent pas se permettre de faire un prix qui soit accessible pour tout le monde. Et là encore, ils sont subventionnés, pour vous dire. Et un livre moyen, il coûte environ 15... même plus, 50 euros. Parfois, les livres concernant le Tchad coûtent 50 euros. Et là encore, tu ne trouves pas tous les types de livres. Tu peux trouver des livres qui parlent de l'histoire du Tchad, des livres qui parlent de l'histoire de l'Afrique, quelques auteurs africains, mais c'est tout. Si tu veux aller dans quelque chose qui est plus, parfois plus ludique, quelque chose qui est dans la bande dessinée, tout ça, c'est extrêmement rare chez eux. Donc c'est à partir de ce constat que je me suis dit, moi, un Tchadien, si je veux lire, si je veux me cultiver, comment je peux faire ?
Et les bibliothèques ? Est-ce que le club de lecture s'est aussi approprié les quelques bibliothèques qu'on peut trouver ici à N'Djamena ?
Oui, en quelque sorte. D'abord, nous avons créé notre propre bibliothèque avec l'aide de Wenaglabs. Là, Wenaglabs avait déjà une petite quantité de livres qui était environ 200. Nous, on a, à partir d'un don que, à une époque où j'étais parti en France, j'ai récupéré des dons que j'ai ramenés au Tchad, environ 1000 livres. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, la bibliothèque de Wenaglabs compte 1000 livres. Grâce à une association en France, on a reçu un autre don de 5000 livres. Et grâce à cette association, on a pu encore faire quelque chose de mieux, c'est-à-dire de choisir les livres qu'on voulait. C'est-à-dire qu'ils nous ont proposé une nomenclature. On a pu choisir les livres dont on avait besoin et les livres qu'on voulait, on va dire. Et c'est comme ça que ces livres, on ne les a pas encore reçus, mais on espère les recevoir d'ici 2-3 mois, au moment où on va trouver un transporteur qui pourra nous les ramener à un prix qui pourrait nous... à un prix avantageux. C'est comme ça. Donc, pour vous dire qu'on est aussi, qu'on n'est pas juste dans l'esprit numérique, on réfléchit aussi à des moyens pour faire en sorte de ramener des livres physiques. Et au-delà de ça, on collabore avec des bibliothèques, des réelles bibliothèques ici, comme l'IFT, la médiathèque de l'IFT, où on a une activité une fois par mois les jeudis, qui consiste à présenter un livre qui n'est pas souvent emprunté dans leur bibliothèque. C'est-à-dire, on choisit un livre qui, on va dire, pour le lecteur tchadien est exotique.
Exemple ?
Je ne sais pas, on va dire un livre Dostoïevski, par exemple. Dostoïevski, qui est russe aujourd'hui, le tchadien, ce n'est pas un livre vers lequel il irait naturellement. Donc c'est ce qu'on essaye de faire, présenter Dostoïevski au lecteur tchadien, ce qu'il représente pour la littérature russe, ce qu'il représente pour la littérature mondiale et ce qu'il pourrait représenter pour un lecteur tchadien qui voudrait aller vers d'autres horizons.
Et je crois qu'il y a eu aussi les liaisons dangereuses récemment.
Oui, en effet, les liaisons dangereuses de Laclos. Bon, ça reste un classique en termes français. Peut-être c'est un livre qu'on ne pourrait pas définir comme étant exotique. Mais bon, du point de vue tchadien, il reste quand même très exotique. Il parle de la France d'une époque que les Tchadiens ne connaissent pas spécialement. Et c'est ça qu'on a voulu présenter. Et surtout, en termes de valeur, en termes d'époque et en termes de mentalité, ça rappelle un Tchad qui existe aujourd'hui, qui existe encore. Et c'est ça qui a été intéressant. Et même dans nos échanges avec les personnes qui étaient présentes ce jour, il s'est avéré que beaucoup ont été surpris du fait que un livre de cette époque de la France, d'une France qu'eux ne connaissent pas et qu'ils n'ont pas spécialement lu, parle de quelque chose qu'eux, ils vivent actuellement. Ce rapport à la femme, ce rapport à la séduction. Et c'est ça qui a été intéressant aussi.
Tu parlais hier d'un aspect paradoxal et intéressant, c'est que parfois, y compris jusqu'au nord par exemple du Tchad, les gens ils ont des téléphones qui sont parfois très coûteux, plus modernes que le tien, et dans le même temps, on dit que le livre il est difficilement accessible.
En effet, c'est ça, c'est quelque chose qui m'a surpris. Je me suis dit, autant l'utiliser dans les activités que je fais. Je me suis rendu compte que les gens utilisent des téléphones, des smartphones, c'est-à-dire des téléphones intelligents avec WhatsApp, avec tout autre logiciel, et la plupart. Et je suis arrivé à ce constat parce que j'étais parti acheter une carte SIM dans un petit village, et il y a quelqu'un qui est venu me voir et m'a dit « S'il te plaît, j'ai un problème avec mon téléphone, est-ce que tu peux me le régler ?» Je me suis rendu compte qu'il ne savait pas lire, en fait. Mais quand j'ai ouvert son téléphone pour lui régler son problème, il avait WhatsApp, il avait d'autres applications qui lui permettaient d'interagir avec les autres. Donc je me suis dit, si cette personne, malgré les lacunes qu'elle a dans la langue française, qui était en l'occurrence celle qu'il utilisait dans son téléphone, il arrivait malgré tout à avoir toutes ces applications, on pouvait utiliser la même chose pour ceux qui parlaient effectivement le français dans ce village, parce qu'il y en avait quand même beaucoup. Il y a des élèves, il y a de tout. Et en même temps, je me suis rendu compte aussi qu'ils avaient une bibliothèque qui n'était pas du tout fréquentée. Donc le constat était que, autant appliquer ces deux, on va dire, constats que j'ai fait, celui du fait que tous les jeunes ici sont quand même entre guillemets connectés, et aussi qu'il y avait des bibliothèques mais qui restent vides.
Donc l'enjeu en fait c'est peut-être tout simplement de déclencher l'étincelle, pas seulement d'ouvrir l'accès.
Voilà. Allumer une flamme, on va dire. Vous savez, Antoine de Saint-Exupéry, en parlant des bateaux, il disait construire un bateau, il ne s'agit pas que de donner des ordres. Il faut faire naître l'amour de la mer chez tes hommes et chez tes femmes. C'est exactement ce que nous on veut faire. Il ne s'agit pas de la mer, il ne s'agit pas de bateaux, il s'agit de livres et il s'agit de faire naître un amour de la littérature.
Dernière question, quel est le livre dont tu penses qu'il a vraiment fait vibrer l'association Impact? On t'a senti que sur WhatsApp, là, ça réagissait. Quel est l'auteur qui vraiment a suscité l'étincelle dont tu parlais?
Bon, on va dire, il n'y en a pas un seul, il y en a trois. On va dire, il y en a trois. Le premier, c'est un livre... c'est un livre de Ismaël Kadaré qui s'appelle Avril brisé, qui parle un peu de l'Albanie et de la vendetta, de la loi du talion, du prix du sang en Albanie. Vous savez, le prix du sang, la vendetta, c'est quelque chose qui est encore très très présent au Tchad. Et étant donné qu'il est très présent, les gens se sont reconnus dans ça et ont été surpris quelque part de voir qu'aujourd'hui en Europe, parce que l'Albanie, bon, même si c'est l'Europe de l'Est et c'est quelque part un autre type de civilisation, ça reste l'Europe, et ils ont été surpris de voir que chez les Blancs, en Europe, il existait encore ce genre de choses, la vendetta. Il y a celui-là, il y a un livre de Emmanuel Dangola qui s'appelle « Photos de groupe au bord du fleuve ». C'est un groupe qui évoque la grève de casseuses de pierre au Congo. Et ce livre aussi a marqué les gens, parce que beaucoup de gens m'ont dit, vous savez, parfois quand on passe sur la route, même au Tchad, même à N'Djamena, on voit ces casseuses de pierre. Mais pourtant, personne ne se retourne, personne ne connaît leur vie, personne ne connaît leur combat. Et quelque part, ce livre les a humanisées, nous a permis de savoir qu'elles existaient et que quelque part, elles aussi ont besoin qu'on sache qu'elles sont là. Il y a ces deux livres. Et le troisième livre, c'est un livre qui s'appelle « Je vous écris dans le noir, je crois ». C'est un livre de Jean-Luc Seigle qui évoque une femme française. C'est une histoire vraie. Et un film a été fait où Brigitte Bardot a été l'héroïne. Ça évoque l'histoire d'une femme qui a tué son mari. Elle a tué son mari, elle a été condamnée. Et après, elle a purgé sa peine. Et elle raconte. Et Jean-Luc Seigle, il a essayé quelque part de la réhabiliter. Parce que cette dame, elle n'a pas été comprise. Elle n'a été comprise par personne, même par les féministes de l'époque.
Simone Veil.
Ouais, Simone Veil. Même Simone Veil n'a pas compris son combat et n'a pas compris, pas son combat, mais n'a pas compris par quoi elle était passée. Et Jean-Luc Seigle, quelque part, a essayé de la réhabiliter. Et dans une société dans laquelle nous on vit aujourd'hui au Tchad, où les femmes sont jugées, les femmes sont ostracisées, où les femmes ne sont pas considérées comme étant égales aux hommes, ce livre a vraiment touché beaucoup de monde parce que quelque part, il a montré que il ne fallait pas juger les gens sans connaître leur histoire. Pour ma part, c'était le livre qui m'a le plus marqué.
Si les auditeurs veulent rejoindre l'association Impact, où est-ce qu'on vous trouve?
Vous nous trouvez à Wenaglap, à N'Djamena, sur l'avenue Niméri. Pour ceux qui veulent nous suivre, ils peuvent nous rejoindre aussi sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, en écrivant Impact, IMP, apostrophe, ACTE. Et pour les autres, un peu, vous savez, Impact et JBS Club existent au Cameroun aussi, sur l'initiative d'étudiants tchadiens qui étudient là-bas, en Turquie aussi dernièrement, et en France aussi, des membres de JBS qui sont repartis continuer leurs études et qui sont là-bas. Donc JBS Club peut exister partout, de toute nationalité et pour tout le monde. On n'a pas de barrière, donc c'est juste si ce n'est l'amour de la littérature et des livres.
Merci Kamal.
Merci à vous.
L'atelier des médias.
Bonjour.
Bonjour.
Mais on m'a dit qu'ici, il y avait un événement. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui?
Oui, on a Sahel numérique qui se passe aujourd'hui. C'est un événement, en fait, une activité du novembre numérique.
Et tu es?
Je suis Amzine Amindialal. Je travaille à Wenaglabs, qui est eux. Et donc, Wenaglabs, en partenariat avec l'Institut français du Tchad, on a organisé, en fait, novembre numérique. Et puis voilà. Et c'est la raison pour laquelle on est là.
Et alors aujourd'hui, j'apprends qu'il y a des conférences. De quoi est-ce qu'on parle précisément? Ce que rencontre sahélienne du numérique, ça veut dire quoi?
Voilà, aujourd'hui, voilà, il y a eu autant d'activités, que ce soit parler un peu du numérique et faire l'état des lieux du numérique au niveau du Sahel, et aussi parler du bienfait du numérique. Et voilà, parler un peu de Civic Tech. Actuellement, dans la salle, ça se passe en fait le panel sur le Civic Tech. Et aussi, il y aura dans l'après-midi le Wanasa avec le 100% féminin en fait.
Donc, Wanasa, une causerie.
Effectivement, Wanasa, c'est une causerie où on se retrouve débattre autour voilà, des expériences et partage d'expériences des autres. Et aujourd'hui, à l'exception des autres Wanasa qu'on a organisé, cette fois-ci, on va assister à un Wanasa 100% féminin.
On ne va pas dire de bêtises aux auditeurs. Là, vous êtes très bien installés à l'entrée. Vous êtes en train de manger. Bon appétit.
Merci.
J'ai l'impression que c'est important de créer aussi un rendez-vous réel, c'est-à-dire la vie des réseaux, c'est la vie des vrais gens, des personnes qui ont envie de se rencontrer pour échanger.
Oui, donc pour revenir sur l'honorum numérique, il est important pour nous parce qu'il nous permet en fait de discuter de tout ce qui nous engage, nous Tchadiens, autour du numérique. Comment est-ce que nous devons utiliser le numérique? Et nous, au niveau de Wena Club, ça nous permet d'inviter la jeunesse à utiliser les réseaux sociaux, mais de manière responsable.
Et tu es ?
Pamela Badje et je travaille à Wena Claps.
L'objectif, en fait, c'est que nous, en parlant du numérique, on commence à voir un peu plus large, c'est-à-dire tous les pays du Sahel, toute la région du Sahel. Aujourd'hui, le Sahel qui était considéré des G5 Sahel, ou le Sahel un peu plus large qui est considéré des G5 Sahel, plus le Sénégal, plus la Guinée. Mais nous, on les voit encore un peu plus large parce qu'on veut ajouter aussi le Soudan, l'Érythrée, les Djibouti. Donc toute cette bande sahélienne constitue aujourd'hui pour nous une grande opportunité. Ça va nous permettre, en fait, d'explorer une sorte de marché sous-régional, mais un peu plus large, qui est dans les milliers des... c'est une population... En fait, dans cette bande sahélienne, il y a beaucoup de populations qui vivent la même réalité, les mêmes problèmes de connectivité, comme j'ai évoqué tantôt, parce que la plupart de ces pays du Sahel sont enclavés. Donc on s'est dit, si tous ces pays réfléchissaient global, réfléchissaient ensemble, on pourrait peut-être trouver une solution aux problèmes de sous-développement, aux problèmes d'accès au numérique, aux problèmes d'insécurité dans le Sahel, aussi, et pourquoi pas aussi aux problèmes de l'immigration qui sévit aujourd'hui dans la région du Sahel.
En fait, tu es en train de nous dire, et là, on est dans un lieu très vivant, les gens rient, tu es en train de dire qu'en fait, le Sahel, c'est pas juste des questions de... Il n'y a pas que des problèmes de sécurité.
Alors, le Sahel, il n'y a pas que des problèmes de sécurité. Nous, en tout cas, on voit vraiment le Sahel en rose, s'il faut le dire ainsi, parce que c'est une terre d'opportunités. C'est comme ça que vraiment je vois. Le Sahel, c'est vraiment une terre d'opportunités dans le sens où c'est des terres arables. Si vous prenez un pays comme le Tchad, c'est une terre d'agriculture. On pourra investir massivement dans l'agriculture. Mais aujourd'hui, tant que les frontières ne sont pas ouvertes, tant que ces commerces inter-pays dans le Sahel ne sont pas ouverts, tant que le numérique n'est pas utilisé pour permettre à ces villageois-là qui produisent, par exemple, des légumes au fond des villages, de pouvoir vendre ces produits sur Internet, j'allais dire tout simplement qu'on n'a pas réussi les paris, tout simplement.
Donc, Et alors, est-ce que pour la suite et pour se projeter dans l'avenir, est-ce qu'il y a d'autres rencontres de ce type-là? Et deuxième question, ceux qui voudraient pouvoir accéder à tout ce qui est peut-être conférences, documents, tout ce qui a été documenté ici, est-ce que c'est possible de le retrouver en ligne?
Oui, tout ce qui est produit comme documentation dans le cadre de novembre de numérique d'une manière globale et du cadre de Sahel ont été conservés et puis publiés en ligne.
Et, mais pour à quelle adresse?
Sur la page Wena Claps, www.wenaclaps.org, et aussi sur la page Novembre numérique.
Un très grand merci.
Merci beaucoup.
Salam alaikum. À mon plus grand regret, tout fonctionne à l'envers. Des coups de selfie ont corrompu les valeurs sociétales du Sahel. Entre nous, j'aimerais aussi souvent me commander un voyage à dos de dromadaire, faire des petites escales pour se manger quelques dates et surtout partager un thermos de thé vert. Vote Wade Web. Vote Wade Web. Vote Wade Web. Antona internet ou mawa se wona kef nastamolo. Les banates de gag auront brutal maï djoub afe. Entre temps, elle tourne des pornos sur WhatsApp sans savoir que ces données c'est pour l'éternité. Soubiane Wadin Bigo Jack Boerak sur réseaux sociaux, détruisant des vies à coup de chantage malsain. Al awal bourrou de Kula Fortego, à cause d'images peu recommandables photoshopées. La plus grande force de ce monde est paradoxalement sa plus grande faiblesse aussi. Alors normal que je rêve d'un internet sûr et libre, tout en sachant que d'où je viens, l'homme est super riche, riche de sa culture et de ses valeurs. Merci.
Alors bonjour, moi je m'appelle Saïba Ngousmo, mon état civil, et mon autre scène c'est Saïba, mais sauf que là ça change d'orthographe, parce que ça s'écrit avec un Y. Je suis un artiste slammer âgé de 25 ans, et je suis initiateur, modérateur d'ateliers d'écriture, voilà, et je suis signé dans un label qui est basé au Cameroun, Music Motion Records.
Est-ce que tu peux me dire pourquoi est-ce qu'on est là? On est au Centre Almouna, qui est donc dans le centre de N'Djamena. Il y a la rencontre du numérique dans le Sahel. Et toi, tu es ici pour te produire?
Oui, exactement. Je travaille un peu en partenariat avec Wenag Labs, qui organise justement la rencontre sahélienne du numérique. Donc je suis ici pour faire un petit slam.
Saïba, ce texte, il est en trois langues. Lesquelles et pourquoi?
Déjà, le texte est écrit en français, un peu d'anglais, un peu bancal, ça je sais, et puis aussi en arabe tchadien. Alors déjà, le français parce que nous sommes dans une zone francophone, et l'anglais pour le simple fait qu'on ne peut pas parler du numérique sans parler de l'anglais, parce que la base de l'informatique c'est l'anglais. Maintenant l'arabe pour que voilà, tout le monde se sente vraiment concerné par la question du numérique, voilà, parce que nous sommes aussi dans une zone sahélienne où on parle majoritairement l'arabe. Donc j'ai choisi les trois langues pour vraiment me recentrer un peu sur la thématique du numérique.
Tu as une expression, tu te dis, si je ne me trompe pas, charabia de code informatique.
Ouais.
Est-ce que ça veut dire que c'est opaque, tu ne comprends pas et c'est peut-être ce qui t'inquiète?
Justement, parce qu'aujourd'hui, la plupart des utilisateurs vraiment bruts d'Internet sont des gars qui ne comprennent pas tout le mécanisme qu'il y a derrière. Et pour justement quelqu'un, pour un non-informaticien, c'est vraiment un langage qui ressemble vraiment à un charabia. Parce qu'on ne connaît rien vraiment au code informatique et tout. Nous sommes des utilisateurs bruts. Mais en background, on ne comprend pas vraiment ce qui se passe. Donc pour moi, vraiment, ça reste un charabia. Parce que jusque-là, je n'arrive pas encore à maîtriser justement le fonctionnement du numérique. Parce que c'est un univers tellement grand, tellement vaste, qu'il y a vraiment, que normalement, on devrait consacrer du temps vraiment à l'apprentissage.
Mais le charabia, en fait, c'est peut-être pas le code informatique en tant que tel. C'est peut-être tous ceux qui l'ont utilisé pour faire d'Internet autre chose que ce qu'il était peut-être au départ, c'est-à-dire un réseau un peu ouvert qui permet de démultiplier les possibilités à la fois de prise de parole et puis aussi d'accès à la connaissance.
Exactement, exactement. Il y a aussi ce côté-là. Mais de l'autre côté aussi, par exemple, la partie où je déclame le texte en arabe, nous ici, par exemple, à N'Djamena, on a eu des problèmes où des personnes se sont suicidées à cause de justement la mauvaise utilisation d'Internet parce que la population n'a pas été éduquée à l'utilisation d'Internet. Elle se retrouve finalement avec un outil complètement nouveau. Nouveau d'abord face aux réalités que nous vivons, face à nos cultures, face à nos traditions. Et du coup, ça devient vraiment compliqué. Et ça, c'est vraiment un gros problème que nous subissons ici chaque jour. C'est vrai, on en parle très peu pour des questions de mœurs, pour des questions alors d'omerta, parce que voilà, justement, il y a ce gros silence là autour. Mais il y a vraiment des cas qui sont, on va dire, extrêmes, justement dû à la mauvaise utilisation de l'Internet.
Oui, par exemple, tu as une expression dans ce slam où tu parles d'éternité des données, c'est-à-dire... Internet, en fait, c'est une mémoire perpétuelle. C'est l'un des aspects qu'en termes d'éducation, il est très, très important de transmettre.
Exactement. C'est vrai que c'est très important de transmettre. Mais à un certain niveau, il faut aussi savoir un peu s'assumer, assumer ses actes, surtout quand on va sur Internet, d'où l'importance de vraiment réfléchir par deux fois avant de poster quelque chose sur Internet. Parce que deux fois, par exemple, là, quand on prend un exemple banal de Facebook, on a l'impression que si on supprime une photo de Facebook, c'est fini, la photo n'est plus sur Facebook. Alors que ce sont des données qui peuvent durer des décennies et des décennies. Et n'importe qui, avec justement la bonne adresse, avec le bon système, peut encore récupérer les photos et puis les utiliser à d'autres fins. Et ça, c'est quelque chose d'assez intéressant aussi à comprendre et à connaître. Le fait de s'assumer quand on fait des publications sur les réseaux sociaux. Parce qu'après, ça peut devenir vraiment dangereux. Ça peut mener jusqu'à la mort. Et ça, c'est vraiment ce qu'il faudrait à tout prix éviter.
Pour réussir justement à construire quelque chose de positif aussi. Et est-ce que c'est d'ailleurs pour ça que tu participes à cette rencontre sahélienne du numérique? C'est-à-dire que tu penses qu'il est souhaitable de venir aider à la fois à peut-être repoétiser par le slam par exemple et à réenchanter un peu cette poésie des réseaux, puis transmettre des choses pour que le plus jeune public puisse non pas se dire qu'il faut ne pas s'approprier tout ça, mais au contraire y aller à la fois prudemment, mais avec l'envie de construire quelque chose?
Oui, justement, en fait, il y a déjà ce côté-là où moi, je me dis souvent que j'ai cette chance-là, ou du moins le slam a cette chance-là d'être souvent invité dans des événements comme ça pour poétiser, pour parler un peu, pour vraiment simplifier les choses hein, aux personnes qui écoutent. Moi, j'ai eu cette chance parce que j'avais déjà fait une caravane dans les 9 arrondissements de la ville de N'Djamena, une caravane sur une sensibilisation sur l'utilisation des réseaux sociaux avec l'Agence de développement des technologies de l'information et de la communication. Et ça a été une très belle expérience. Et pour moi, c'est toujours un honneur, c'est toujours un plaisir de venir et puis voilà, de casser un peu la dynamique qu'on a. Parce que justement, quand on parle des réseaux sociaux, de l'utilisation d'Internet, on pense toujours à ces personnes-là qui ont un bac plus 5, un bac plus, je ne sais pas, 10 en informatique et tout. Alors qu'en réalité, avec le simple slam, on peut venir là, voilà, devant un petit public qui ne comprend rien au charabia informatique et simplifier les choses pour que voilà, ce soit accessible à tout le monde.
Il y a un autre charabia auquel tu es attaché, parce que tu n'es pas seulement président de Tchad Slam, c'est la question du droit et des finances de l'État, des finances publiques. Et si je ne me trompe pas, avec l'équipe de Wena Clubs, qu'on connaît bien dans l'atelier des médias, vous préparez un projet, une application même. Qu'est-ce que c'est que cette application?
Alors déjà, l'application, c'est une application qui parle du budget citoyen. Donc c'est une application dans laquelle on aimerait mettre des informations, mais vraiment simplifier les informations concernant les finances de l'État pour que justement la population qui participe aux finances de l'État avec les impositions et autres puisse avoir accès et comprendre comment est utilisé l'argent que justement cette population collecte pour financer les dépenses étatiques.
Et ta formation de juriste, elle te permet peut-être d'avoir une vision globale et d'aider à simplifier. Et d'ailleurs, l'un des enjeux de budget citoyen, je crois, c'est de le rendre disponible, encore une fois, en deux langues.
Oui, exactement. En fait, voilà, moi, j'ai une formation en droit public. Donc, justement, en droit public, on a une spécialité en finances publiques. Donc, justement, ça me permet aujourd'hui d'avoir quelques notions à partager. Mais le défi, c'est vraiment de simplifier les choses pour que vraiment... Le berger qui est au fond du village, la petite commerçante qui vend son petit légume dans le petit marché, qui donne 100 francs, 200 francs pour les impôts, puisse vraiment connaître à quoi sert l'argent collecté par l'État, voilà, et tout. Donc l'objectif, c'est vraiment d'arriver à simplifier cela, mais aussi d'amener la population à comprendre que normalement, quand elle collecte pour les impositions, ça va pour des bonnes causes, l'éducation nationale, la santé, et puis voilà, et d'autres projets aussi. Et justement, pour simplifier cela, il faudrait arriver à faire passer le message dans des langues que le Tchadien comprend, en l'occurrence l'arabe tchadien et puis peut-être aussi un peu le Sahara, mais de vraiment porter le message par les personnes concernées. Parce que moi, je me dis que le message ne pourra pas très bien passer si on a un bureaucrate en cravate costard qui vient raconter, dire que voilà, les finances, c'est pour ci, c'est pour cela. Alors que quand c'est une femme concernée vraiment par la chose, la petite commerçante, je crois que ce serait beaucoup plus écouté et ça pourrait avoir un impact plus grand.
Un autre charabia, c'est une fois qu'on a les textes de loi, quand on connaît un peu l'architecture juridique de tout ça, il y a un autre enjeu qui est de connaître les chiffres. Et toi, tu me disais tout à l'heure que ça a été assez galère de travailler sur ce projet du budget citoyen. Pourquoi ?
Alors exactement, parce que normalement, comme c'est le budget de l'État, on devrait avoir le fichier, le budget étatique, et puis voilà, la répartition surtout par ministère. Il faudrait que la population arrive à savoir, dans le ministère de l'Éducation, par exemple, pour l'exécution budgétaire 2019-2020, par exemple, il faudrait que le citoyen lambda sache que, voilà, dans l'éducation cette année, il a été investi telle somme d'argent. Dans la santé, il a été investi telle somme d'argent. Pour connaître justement l'utilisation, l'impact après sur justement la population et le reste. Mais aujourd'hui, on est en face d'une grosse difficulté, déjà parce que c'est difficile d'avoir les fichiers au niveau du ministère des Finances ou alors au niveau du Trésor. Parce que les gars, on parle d'une information au niveau du budget qui est libre, mais en réalité, elle ne l'est pas. Ce n'est pas une information libérale pour la simple raison que déjà, on nous refuse l'accès à ce document-là. Donc, c'est vraiment, actuellement, c'est vraiment notre plus grosse lutte. Parce qu'il nous faut ce document pour vraiment concrétiser notre application. Pour que voilà, la population sache que cette année, dans tel budget, dans tel ministère, en fait, dans tous les ministères et toutes les institutions qui bénéficient des finances de l'État, il faudrait qu'il y ait des données concrètes et surtout fiables pour qu'après, la population puisse avoir un droit de regard derrière.
En fait, c'est ça. C'est-à-dire que la rencontre sahélienne du numérique, c'est identifier comment mettre l'informatique ou les réseaux au service du citoyen, j'ai l'impression. Et le budget citoyen, c'est une proposition sur laquelle tu travailles. Est-ce que c'est un peu ça ?
Oui, exactement. Alors, c'est parti, mais c'était vraiment un truc, un projet qui était parti comme ça, banalement. J'ai rencontré Salim dans son bureau, on était en train de discuter.
Salim Hassani de Wenak Labs.
Wenak Labs, voilà, le cofondateur de Wenak Labs. On était en train de discuter et il m'a présenté le projet. Il me dit qu'il est en train de travailler sur un budget. Moi, j'ai dit que ouais, mais je m'y connais aussi un peu dans les finances. On était en train de parler de cela, mais finalement, on est retombé dans les finances publiques. Et voilà, donc il a eu confiance en moi, il a demandé à ce qu'on travaille ensemble. Et puis voilà, c'est comme ça que le projet est parti. Moi, tout de suite, ça m'a vraiment intéressé, ça m'a vraiment plu. Parce que, après tout, c'est une question tellement sensible, mais c'est une question normalement qui devrait être prioritaire quand on parle justement d'un fonctionnement d'un État démocratique. Ça devrait vraiment être prioritaire parce que voilà, dans un État de droit, il faudrait que la population sache à quoi va servir son argent et comment il va être dépensé, comment il va être utilisé.
Cette rencontre sahélienne du numérique, est-ce que pour toi, tu penses que c'est un moment aussi qui peut permettre de mutualiser, d'élargir la réflexion et de ne pas rester cantonné au Tchad, mais peut-être de rayonner aussi au-delà? Qu'est-ce que ça t'inspire, le fait que ça ne s'appelle pas les rencontres tchadiennes du numérique, mais la rencontre sahélienne du numérique?
Alors moi déjà, c'est ce qui me plaît dans tous ces genres d'événements, ce sont les rencontres justement. Et quand on parle du Sahel, pour tout vous dire, c'est qu'il y a beaucoup de choses à se raconter. Les réalités, par exemple, du Niger, les réalités du Mali, les réalités de la Mauritanie, toutes ces réalités mises en commun sur une même plateforme, c'est quelque chose de vraiment grandiose. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on est tous issus de la même région du Sahel, mais en réalité, on a ces petites nuances-là qui font la beauté de justement ces différences-là. Et c'est quelque chose de vraiment très important et c'est quelque chose qui devrait se pérenniser. Voilà, dans le temps. Et on espère que la prochaine édition sera beaucoup plus grandiose et verra la participation de beaucoup d'autres pays.
Saïba, si on a envie de retrouver ton travail, tes slams, est-ce qu'il est possible sur Internet de trouver ton travail?
Ouais, pour le moment, je suis encore en train de travailler un peu sur la com et tout. Mais vous pouvez déjà trouver la plupart de mes activités, je les mène sur Facebook. Et puis voilà, sur les autres réseaux aussi, YouTube aussi. Donc voilà, vous pouvez me trouver sur tous les réseaux sous le nom de Saïba Off. Donc S-A-Y espace B-A-A espace O-2-F.
Voilà. Un très grand merci.
Merci à vous.
Alors ça y est, c'est l'après-midi, la pause déjeuner est passée. Les lycéens du concours Génie en Herbe débarquent au centre Almouna et croyez-moi, c'est reparti.
Sur ce, après délibération, le jury a décidé de trouver une note de Adventiste 1 sur 9, Collège évangélique 8 sur 9.
On applaudit pour le Collège évangélique.
Je me présente au nom de Amzine Amine Diallo. On a eu à organiser Génie en Herbe avec William et l'équipe en fait.
C'est Naïndoba William.
Et donc on a eu cet après-midi, là on est dans la salle, il fait encore chaud, la température est en train de baisser. On sent qu'il y a eu beaucoup d'euphorie, d'enthousiasme autour des génies en herbe. Alors, ce n'était pas des génies en herbe d'ailleurs tout à fait habituels, c'était numérique. Est-ce que tu peux revenir sur les enjeux de cette compétition?
Oui, c'est une compétition en fait. Et donc pour génies en herbe en fait, le thème de cette année c'était le numérique. Donc tous nos questionnaires en fait, ils étaient typiquement numériques, disons. On a sélectionné 16 établissements, voilà. On a commencé par 8e d'écart, on a éliminé les 8 pour garder les 8 en fait. On a eu à faire récemment le quart de finale pour retenir aussi 4 établissements qui ont compétit aujourd'hui à la demi-finale et finale, voilà, de Génie en Herbe de novembre numérique.
Et je pense qu'il faut dire qu'on est vraiment sur une scène, là. Sous mes pieds, c'est vraiment le plancher de bois. Devant, il y avait toute la salle, les étudiants, enfin les lycéens qui étaient en train d'applaudir. William, comment vous avez fait pour les encourager vraiment à se documenter là-dessus? Est-ce qu'il y a eu un travail qui a été fait pour qu'ils apprennent, par exemple, à se documenter sur l'histoire des plateformes, du web, etc.?
Ok. Bon, là, je vais essayer de revenir dès le début. Donc, d'abord, quand on est passé dans les 16 établissements, on parlait de génie en herbe. Il y avait eu beaucoup de curieux. Donc, pour la phase de présélection, on avait eu une dizaine, des fois une trentaine, quarantaine, cinquantaine dans les établissements. Donc, il était question de choisir seulement 4. Bon, beaucoup se disent, c'est quoi génie en herbe uniquement dédié sur le numérique? Donc, comme ils étaient aussi nombreux, ça nous a aussi permis d'avoir un large public. On a d'abord touché un large public en interne pour d'abord ressortir les 4 qui vont représenter l'établissement. Du coup, on les a fait passer des questionnaires et c'était uniquement sur le numérique. Là, ils découvrent déjà ce qu'ils vont affronter plus tard. Donc, c'était des QCM où ils devaient juste cocher la bonne réponse, mais c'était uniquement sur le numérique. Donc, on donnait des questions du Tchad, les sites de vente en ligne au Tchad. Il n'y en existe pas beaucoup. Il y a Amazon qui est si célèbre, mais on en a quand même. Du coup, il est question d'apprendre déjà à ses élèves de reconnaître déjà ces plateformes qui existent au niveau local. Donc, d'abord, quand on a commencé déjà à corriger et retenir 4 élèves dans chaque établissement, on a eu une rencontre avec eux avant de faire les tirages au sort où on les a expliqués qu'au sein de Wena Clubs, d'abord, on a une bibliothèque qui est là où il y a énormément de documents sur le numérique et tout. Donc, ils savent déjà le thème général, c'était le numérique. Donc, on s'est un peu, balancé sur le côté du hackathon. Donc, le numérique au service de l'enfance. Donc, on s'est dit que c'était aussi des élèves et tout ça. Donc, il ne fallait pas quand même ressortir des termes qui sont un peu compliqués pour eux. On ressort des termes qui sont populaires, certes. Des fois, on comprend. Bon. Mais on ne sait pas ce que ça veut dire. Tout le monde sait ce que W3W veut dire quand on se connecte et tout ça, mais on ne sait pas ce que ça veut dire. Donc, il est question d'apprendre déjà à ceux qui participent de maîtriser ces petits termes ou bien ces petites définitions, les définitions de ces petites choses.
Oui, comme disait Salim de Wena Club tout à l'heure, c'est à la limite soit on gagne, mais sinon on apprend. Voilà. Hein. Et est-ce que tu peux peut-être donner, Amzine, un ou deux exemples de questions qu'on a eues aujourd'hui?
Oui, on a posé genre c'est quoi Wikipédia. En fait, souvent quand on tape sur Google un truc et tout ça, il y a Wikipédia qui sort juste en bas. Donc du coup, on s'était dit pourquoi ne pas poser ce genre de questions parce qu'on rencontre souvent Wikipédia et tout ça. Et aussi, on a posé comme question, je sais pas trop, le créateur de Google.
Qui est Sergey Brin et Larry Page.
Larry Page, voilà, c'est Larry Page. Et donc c'était un peu compliqué en fait. On a voulu est-ce que ça se on commence tout doucement en fait leur poser des questions des bases, disons, avant de partir sur des choses qui sont vraiment internationales, disons, et tout ça. Mais à chaque fois, à chaque compétition, en fait, on les fait comprendre qu'il faut encore étudier de plus parce que les questions qui vont venir seront un peu plus compliquées que les précédents et tout ça. Donc, on les encourage, en fait, au fur et à mesure qu'ils avancent, on les encourage, voilà, allez vous documenter et puis faites des recherches et tout ça, en fait, pour y arriver. Et en fin de compte, on a reçu nos finalistes et tout ça, ils étaient vraiment forts. On a eu des matchs nuls, donc c'était genre, disons, ça c'est fort quoi. Mais quand même, on a posé d'autres questions en fait pour quand même retenir le gagnant parce que...
Et ce qui était assez frappant, c'est que le niveau finalement, on est allé vers un niveau crescendo et à la fin, l'équipe qui est finaliste, elle a eu 9 sur 9.
Sur 9, effectivement, et l'équipe, elle a frappé fort. Là, on va dire, parce que dès le début, d'abord, quand on est passé chez eux, on nous a juste envoyé 4 élèves. Donc, eux, ils ont d'abord passé une présélection déjà en interne, où ils nous ont envoyé 4, 2 filles et 2 garçons. Donc, ils savent que dans tous les cas, les 4 seront sélectionnés et tout. Malgré tout ça, on les a soumis également à un texte, et ils ont fait 10 sur 10. Et ils continuent, ils ont fait un bon parcours. Alors, on peut dire que c'était vraiment les champions géniaux en herbe 2.0.
En tout cas, ce qui est très encourageant, c'est qu'on sent que c'est vraiment l'acquisition de connaissances par le jeu. Et puis, on était tous réunis ici. On sentait qu'il y avait une joie, c'est-à-dire que c'est vraiment un rapport à la pédagogie qui est joyeux.
Oui, exactement, effectivement. En fait, Génie en Herbe, ce n'est pas seulement pour les participants. Ils n'ont pas, c'est pas, en fait, on n'a pas seulement poussé les participants à apprendre et tout ça. Mais nous-mêmes, là, on a appris. Et puis voilà, le public aussi, il a appris. C'est pourquoi on a demandé aux élèves de venir assister pour connaître les questionnaires, les réponses et tout ça, pour se préparer pour novembre numérique 2020, bien sûr.
Donc l'année prochaine, il y aura de nouveaux Génie en Herbe. Les étudiants, les auditeurs qui nous écoutent peuvent même déjà se préparer.
Oui, exactement. Et avec tout ce qui s'est passé et tout ça, ils étaient vraiment genre motivés. Et je crois que c'est dès maintenant qu'ils vont commencer à voilà, avoir des connaissances et tout ça pour se préparer en fait, pour Génie en Herbe 2020.
Merci à tous les deux.
Merci.
Merci.
La première rencontre sahélienne du numérique, c'est donc presque fini. Mais avant de se quitter, j'ai bien envie de remercier ceux qui ont accueilli ici à N'Djamena l'atelier des médias. Je pense évidemment à l'équipe de Wena Clubs, qui a déjà dans l'idée, on l'a bien compris, de réorganiser de nouvelles rencontres sahéliennes du numérique, y compris en dehors de N'Djamena. Les Mondo Blogueurs également, et je pense à Hassan Abdoulaye Hassan, qui est venu d'Abéché à 900 km de là pour nous retrouver. Évidemment, on a été très émus. Mais aussi Marie Perret, qui s'est démenée comme jamais pour que ça marche et pour qu'on puisse être ici. Et enfin Pierre Muller de l'Institut français du Tchad. Un grand merci à titre personnel à Camille Deloche et à Simon Decreuse pour ces quelques belles journées ici de reportage à N'Djamena. Vous êtes sur RFI, merci d'être à notre écoute. J'en ai presque oublié de dire qu'au micro c'était Julien Le Bot.